première épître à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or ou de perles ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie.
La dernière fois, nous avons vu la première épître à Timothée au chapitre 2, à peu près du verset 5 au verset 8. Nous avons dit que Dieu désire que nous prions dans sa maison, que sa maison est une maison de prière, que nous prions pour que tous les hommes soient sauvés, et pas seulement une partie. De la même manière que le seul médiateur entre Dieu et les hommes s'est donné en rançon pour tous. Dieu est un. Il est pluriel et pourtant unique. Il n'est révélé comme tel qu'au baptême de Jean. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu qui est un, que tous soient sauvés. Et la personne du Seigneur est suffisante pour payer à la place de quiconque veut s'approcher. Nous voyons ici ce que la parole appelle la propitiation. La propitiation est la rançon payée pour le péché qui séparait tous les hommes du seul Dieu. Cette rançon, c'est le médiateur, l'homme Christ Jésus qui a voulu la payer par sa propre personne. Autrefois, il y avait des intermédiaires, des patriarches, des sacrificateurs, des conducteurs, entre le peuple d'Israël, qui n'était qu'une petite partie des hommes, et Dieu. Mais maintenant, il y a un seul médiateur qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, pour le monde entier. Il est un médiateur unique, car lui seul peut apporter à Dieu les choses que les hommes connaissent, car il est parfaitement homme. Et lui seul peut répondre à tous les caractères de Dieu et peut révéler celui-ci aux hommes, car il est parfaitement Dieu. C'est de ces vérités universelles de l'Évangile que Paul a entretenu les nations. Nous sommes les témoins de ces vérités dans l'Assemblée. Les détails de ce qui témoigne nous est donné selon l'ordre de la création à partir du verset 8.
On peut rappeler que la première épître à Timothée est une épître instructive et elle présente la maison de Dieu dans un ordre conforme à la pensée de Dieu. Et dans cette épître, Dieu nous donne un modèle de fonctionnement. Dans cette épître, Dieu est présenté comme le Dieu sauveur, comme nous le voyons au premier chapitre et au premier verset. Et dans Le premier paragraphe du chapitre 2, nous le voyons comme ce Dieu sauveur qui désire que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et le moyen que Dieu nous a donné, eh bien, c'est Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et alors au verset 6, il y a cette expression « témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des nations dans la foi et dans la vérité. » Cette expression de témoignage qui devait être rendu. C'est-à-dire que la maison de Dieu, eh bien, qui a ce caractère évangélique, eh bien, pour rendre ce témoignage, pour être ce témoin, eh bien, il y a des choses qui doivent être vécues et nécessaires dans cette maison pour que l'assemblée de Dieu, vue comme sa maison, la maison de Dieu, soit un témoin véritable par rapport au monde entier, eh bien, trois choses sont nécessaires. La première de ces choses, c'est la piété. La deuxième de ces choses, c'est la gravité, c'est-à-dire, dans le verset 2, c'est l'honnêteté. Et la troisième de ces choses, c'est la connaissance de la vérité.
L'apôtre Paul, qui lui a reçu cet enseignement de la part du Seigneur lui-même, ici il dit « Je veux que les hommes prient ». Nous voyons bien l'autorité qu'il a reçue du Seigneur. « Je veux que les hommes prient en tout lieu ». Ça veut dire que les hommes, les frères, dans les assemblées, nous sommes ici dans la maison de Dieu, que les hommes prient en contraste avec les femmes. Donc, il n'y a pas d'âge pour prier entre frères, que les frères prient. Quand j'étais jeune croyant ici, il y avait un frère qui me disait, en le venant après les escaliers, que tous les hommes prient, qu'il m'a dit. Voilà, contraste avec les femmes, je veux, donc il n'y a pas d'âge pour prier. Et il n'y a pas que les anciens qui doivent prier, il y a aussi les jeunes croyants qui doivent prier, c'est des hommes. Donc tous doivent prier. Ainsi, dans l'assemblée, quand les hommes, les frères prient, combien Dieu est honoré, et ils crient en tout lieu, où qu'ils soient, pas seulement dans les assemblées, mais quand on se réunit ailleurs, en public, hein, nous sommes ici en public. Donc que les hommes prient. Combien cela nous encourage ainsi à réaliser ces choses et que nous puissions ainsi être encouragés pour que tous, que les frères, prient en assemblée.
L'apôtre, dans ce deuxième paragraphe, donc nous présente la place des hommes dans la maison de Dieu et aussi la place de la femme dans la maison de Dieu. Et pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, Donc je veux que donc les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Et nous devons souligner que la prière en public n'est pas réservée à une classe de personnes particulières et qui aurait une fonction officielle dans l'Assemblée. Et ce désir de l'apôtre, c'est pour tous les hommes, tous les frères. Prie en tout lieu, élevant des mains saintes. La seule restriction que Paul donne, c'est que pour prier, il faut un bon état moral qui doit être maintenu par chaque frère. Élever des mains saintes. Donc, nous devons être les frères, comme les sœurs, bien sûr, mais ici les frères, marqués par la sainteté. Et si nous sommes conscients que quelque chose dans notre vie n'est pas jugé, eh bien, nous devons la juger. Et de telle manière, la chose étant confessée et jugée, nous serons dans cette condition morale pour prier. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, la note dit pure. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle de la place de la femme dans la maison de Dieu. Et on peut sans doute résumer par trois mots le comportement de la femme dans la maison de Dieu. C'est la décence, la modestie et la discrétion. Et il faut sans doute rappeler que notre conduite dans la maison de Dieu, ou notre comportement dans la maison de Dieu, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, ne se limite pas aux réunions d'assemblée. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes des pierres vivantes de la maison de Dieu. C'est-à-dire que notre comportement n'est pas limité aux réunions d'assemblée, mais va bien au-delà dans toute notre vie personnelle, vie de famille et même vie professionnelle dans ce monde. Et il faut sans doute insister sur ce point-là. Et alors, dans les instructions de Paul, nous voyons des choses positives et des choses négatives. Alors, je voudrais d'abord souligner un point. C'est le mot « se pare d'un costume décent ». La note dit « tenue ». Et alors, dans le grec, on peut relever quelque chose d'intéressant, c'est que quand il est parlé ici de la tenue, c'est à la fois quelque chose qui se manifeste extérieurement, notre tenue, mais il y a une correspondance qui doit exister avec notre état moral intérieur. Notre tenue ne se limite pas à un aspect extérieur, mais aussi à notre état moral intérieur. C'est-à-dire, il ne faut pas de dissociation entre ce que nous vivons, en tant que croyants, que ce soit des frères ou des sœurs, et ce que nous manifestons à l'extérieur. Il faut une harmonie entre ce que nous vivons, en ce que je vis avec le Seigneur, et ce que je manifeste à l'extérieur, mon apparence extérieure. Et c'est quelque chose de précieux, parce que l'apôtre, il faut insister, présente la maison de Dieu dans son ordre. C'est-à-dire que nous nous tenons devant Dieu dans sa maison, ce n'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu. Il nous donne donc des instructions positives ou des instructions négatives pour notre conduite, mais il faut que notre état intérieur se manifeste heureusement extérieurement. Et pour souligner ce point, nous voyons au verset 10, il nous est dit, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans la première épître à Timothée, ce qui est parlé, ce qui nous est dit de la profession, il y a une harmonie et une correspondance entre l'état intérieur et ce que nous manifestons à l'extérieur. Tandis que dans la deuxième épître à Timothée, on voit cette dissociation, en particulier dans le chapitre 3, nous voyons que, verset 5, « ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance ». Nous sommes sans doute, non pas dans l'enseignement sans doute de Timothée, nous sommes plus près de l'enseignement qui est donné dans la deuxième épître à Timothée. Mais il faut toujours revenir à ce qui est conforme à la pensée de Dieu, de telle manière que notre état intérieur se manifeste d'une manière heureuse, cette vie de piété intérieure se manifeste d'une manière heureuse dans notre comportement extérieur.
Je voudrais dire un mot sur le verset 8 qui a déjà été évoqué. Michel l'a déjà évoqué, disant que la seule restriction qui est posée ici à la prière en tout lieu des hommes et d'élever des mains saintes, donc une disposition intérieure propice moralement, et il est ajouté sans colère et sans raisonnement. On peut parler de ces deux mots, sans colère et sans raisonnement. On peut entrevoir dans cette expression sans colère ce que le Seigneur déjà disait dans sa prière, « Pardonne nos offenses quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Quelquefois, notre état, justement, laisse encore quelques colères, quelques ressentiments ou quelques freins à l'action de la grâce dans nos cœurs. Et il en résulte le fait que on a du mal à s'approcher du Seigneur, parce que c'est quelque peu lié. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Et donc, on se prive, tout en sachant qu'en se privant, eh bien, le Seigneur disait, sa maison était une maison de prière. Nous l'avons évoqué dernièrement, que ce soit dans Jean ou bien dans Ésaïe. Et nous nous privons justement de ce privilège que Dieu nous donne dans la dispensation actuelle de pouvoir nous approcher en toute confiance de son trône de grâce. Les perdants dans cet aspect, c'est toujours le croyant, parce qu'il a le Seigneur qui est dans les cieux, à la droite du Père. Il a le Père dont le Seigneur a dit, il vous aime. Demander et on s'en prive, ou on met, ou on entretient des barrières. Et le deuxième est sans raisonnement. Et là, on se rapproche un peu plus de ce que Jacques disait, que celui qui s'approche de Dieu, eh bien, il croit que Dieu est. Et qu'il est justement le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ces raisonnements souvent arrivent parce que il y a le premier aspect qu'on a évoqué. On entretient ou on laisse ou on ne s'occupe pas de quelque chose qui nous met, qui nous éloigne de la grâce de Dieu, de cet état justement où on accepte simplement ce que Dieu a fait pour nous. Et donc le deuxième, c'est qu'on veut poser des questions, même à cette grâce. Est-ce que je suis digne? Et j'ai un peu en pensée ce qui arrive quand on veut être plus saint même que ce que Dieu a fait de nous. On se dit, mais est-ce que je peux m'approcher? Est-ce que moi je peux? Est-ce que... Et là justement, et Michel l'a bien évoqué, eh bien il nous suffit de confesser. On ne nous demande pas de le ressentir, que Dieu nous pardonne, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, dit Jean dans sa première épître, au chapitre 1er. Et donc ces deux choses-là font que nous nous privons, et plus nous nous privons de nous approcher du Seigneur par la prière, plus nous nous privons justement de cette communion-là, d'entretenir cette communion-là, et plus aussi nous nous privons justement de cette force pour continuer sur le chemin. Et combien nous devons faire attention à cela, que ce soit dans la vie en assemblée, mais que dans, la prière commence aussi, d'abord dans le particulier, dans le privé. Combien nous devons faire attention à ces deux choses. Ne pas être en deçà, ne pas être au-delà, ne pas penser qu'on n'est pas digne, ne pas penser que la grâce est inaccessible pour moi parce que c'est la grâce, mais ne pas aussi se dire que bon, moi j'en suis capable, moi j'en suis digne, et donc d'autres n'en est pas, entretenant ainsi d'une certaine façon ces deux positions où on entretient la distance, où on élève plus ses mains saintes parce qu'il y a des écueils ou bien il y a des points qui sont pas au clair dans notre conscience. Et de même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce que l'on retient de ces deux versets, justement, c'est que aux femmes, il n'est pas interdit de faire, ou bien au contraire d'ailleurs, de faire ces bonnes œuvres que d'ailleurs Dieu a préparées à l'avance, d'après Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Mais il faut les connaître et il faut se mettre à sa place. On ne cherche pas à exprimer sa foi par des moyens, on va dire, humain, charnel. On ne cherche pas à exprimer sa foi ou à montrer son dévouement à une place qui n'est pas la sienne. Michel a parlé de cette discrétion-là. Michel, justement, a parlé du fait qu'on soit dans cette décence-là. Mais combien, et beaucoup d'exemples le montrent, on pourra lire justement dans... en lisant 1 Pierre au chapitre 3, ce passage qui est connu de tout, qui est bien connu. On peut lire tout le verset premier. Pareillement, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être extérieure, qui consiste à avoir des cheveux tressés et à être paré d'or et d'habillements beaux et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un cœur, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. car c'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah, bien sûr, qui est évoquée. Dans ces passages, Pierre, qui était vraisemblablement, qui avait une épouse, nous montre des choses que, humainement, on pourra dire, oui, mais ce n'est que de la théorie, mais ayant le sceau divin des Écritures, on comprend que la parole n'est pas le seul outil, le seul instrument dont Dieu se sert pour toucher les cœurs, pour toucher les consciences. Et combien, justement, cette parure que Dieu donne, justement, ou ce service que Dieu donne aux femmes par leur comportement, par leur attitude, est plus intéressant même que beaucoup de prêches que l'on vient faire n'étant pas conduit par l'Esprit. Et dans la chrétienté actuelle, on s'emploie à mépriser ce que Dieu apprécie pour que les hommes ou les femmes, justement, puissent quitter leur place, ne puissent pas rester là où Dieu a promis la bénédiction, là où Dieu a promis son approbation. C'est là où, justement, nous voyons beaucoup de personnes qui peuvent être sincères, qui peuvent être dans cette attitude là où elles veulent servir, mais finalement le font mal ou s'y prennent mal, eh bien parce qu'ils ne sont pas à leur place, parce qu'ils n'utilisent pas les bons instruments. Et donc, c'est encore un encouragement aux femmes, aux sœurs, pour être plus précis ici, eh bien à se parer justement de ces tenues que Dieu a préparées, que Dieu justement apprécie, que lui apprécie mieux que quiconque. Et donc, ne vous laissez pas décourager, démotiver par des propos de plus en plus, on peut dire, au goût du jour actuel ou que l'on veut mettre dans l'air du temps pour dire non, la femme doit faire ceci aussi, doit prendre du service en public, devrait aussi faire ceci parce qu'elle a été sauvée, et ainsi de suite. Bref, pour dire que c'est une richesse qui est bien appréciée de Dieu et combien il serait sage de pouvoir l'utiliser et donc d'en être béni à la suite.
Juste apporter un autre éclairage sur le sans colère et sans raisonnement. Si on revient en arrière, au verset premier, il y avait cette exhortation générale à ce qu'on fasse des supplications, des prières, etc. Les versets 2 à 7 peuvent être vus comme une espèce de parenthèse avec le verset 8 qui reprend « Je veux donc que les hommes prient ». Mais dans cette parenthèse, il y a cette prière, par exemple, en particulier, disons, pour les rois, pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Les autorités de ce monde et pensent comme le monde et veulent comme le monde. Et ça amène très rapidement à ne pas vouloir et à le manifester de façon brutale ou subtile, à ne pas vouloir de ce qui est de Dieu. Et le croyant peut être en danger devant des actions des autorités de ce monde d'avoir de la colère, tout simplement. Quand des mesures, des lois, des décrets imposent ceci, interdisent cela, notre chair peut réagir devant de telles choses, notre chair qui voudrait servir Dieu. Nous voulons servir Dieu, mais notre chair agissant, nous pouvons réagir dans la colère ou dans le raisonnement. Penser, raisonner comme le monde. Et alors nous sommes dans le mauvais état d'esprit pour pouvoir prier. Et c'est quelque chose de très subtil. Et il y a quelque chose de commun avec ce qui suit concernant les femmes, concernant les sœurs. C'est tout ce qui est du registre de la manière de penser du monde, et le monde pense d'une certaine manière et agit de manière très cohérente, comme il pense, et nous sommes influencés par cette manière de penser, et là, alors, dans l'incohérence, nous pouvons être amenés à agir selon cette manière de penser, dans l'incohérence avec ce que Dieu a fait de nous. Pour les hommes, si on peut dans ces versets, je crois qu'on peut, comme dans d'autres passages, l'Esprit-Saint veut nous rendre attentifs à ce qui sont des faiblesses particulières de l'homme ou de la femme. Et on le reverra plus loin quand il est fait référence à la Genèse. Des faiblesses particulières, l'homme qui a plus tendance à être quelqu'un de rationnel, qui est peut-être plus facilement en danger d'être pris par du raisonnement, par de la colère. La femme qui a plus tendance à être sur le registre des émotions, de la sensibilité, et qui peut être plus en danger de donner de l'importance à ce qui est l'apparence extérieure, avec ce qui est énuméré là, des paires, des habits somptueux, de l'or, etc. C'est des mises en garde particulières sur des dangers plus particuliers pour l'homme ou pour la femme. Et le sans-colère et le sans-raisonnement, je crois que c'est quelque chose qui est subtil, parce qu'on peut aussi bien prier mal, parce qu'on prie dans la colère, mais ce n'est pas exprimé là, mais on peut prier mal, en étant dans la naïveté. Voir, par exemple, les autorités comme étant pour nous, parce qu'elles sont en position d'autorité et qu'une position d'autorité vient de Dieu, alors que les autorités n'ont qu'un intérêt, le leur propre, et ce qui est de l'homme. Ce qui est de Dieu, elles s'en moquent. Et voilà, sans colère, sans raisonnement, c'est quelque chose à réfléchir aussi sous cet angle-là. Il y a notre état moral, c'est le premier point certainement, qui est exprimé par « élevant des mains saintes ». Mais cet état moral peut être bon et tout en étant en même temps marqué par quelque chose de la réaction à la pensée du monde, à ce que veut le monde. Et cette réaction se manifeste que de la même manière qu'agit le monde. Et donc quelque chose de similaire, mais sur un registre tout différent pour les femmes.
Dans les versets 9 et 10, donc, il nous est dit que la parure des femmes, des sœurs, ce n'est pas ce qu'elles portent, leur habillement, mais leur parure, ce sont de bonnes œuvres. Et la première épître à Timothée, je crois que le mot « bonnes œuvres » ou l'expression « bonnes œuvres » est employée 5 fois. Dans l'Épître à Tite, il est parlé aussi des bonnes œuvres plusieurs fois. Et alors, dans l'Épître à Tite, je voudrais relever un peu à la suite de ce que dit Jacques, dans le chapitre 3 au verset 8, l'apôtre s'adresse à Tite et lui dit: cette parole est certaine et je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Et on voit qu'il y a un lien, l'apôtre établit un lien entre cette parole certaine, c'est-à-dire au fond les bonnes œuvres ne sont les fruits que de la bonne doctrine et du saint enseignement appliqué dans la maison de Dieu. Les bonnes œuvres, ce n'est pas le fruit de mes sentiments, et nous savons la sensibilité des femmes et de nos épouses, et peuvent être très promptes justement à ses bonnes œuvres, mais le point important, c'est cette parole est certaine, c'est-à-dire que l'enseignement de Paul, c'est cette bonne doctrine et ce saint enseignement, c'est dans la mesure où cet enseignement est compris et suivi que dans notre vie chrétienne, que ce soit les frères et les sœurs, eh bien, il y aura ces bonnes œuvres que Dieu approuve. Il y a toujours le lien entre ce que Dieu donne en instruction et les bonnes œuvres qui doivent suivre et qui nous sont préparées à l'avance.
L'habillement des femmes, les parures, les costumes, ce n'est pas nouveau. C'est déjà dans l'Ancien Testament. On le voit, on peut lire simplement, c'est un peu long, mais Ésaïe, chapitre 3, versets 16 à 24.
Ésaïe, chapitre 3, verset 16. Et l'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu, et le regard plein de convoitise, et qu'elles marchent allant à petits pas, faisant résonner leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et l'Éternel exposera leur nudité. Et ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de pied, et les petits soleils, et les petites lunes, les pendeloques de perles, et les bracelets, et les voiles, les diadèmes, et les chaînettes des pieds, et les ceintures, et les boîtes de senteurs, et les amulettes, les bagues et les anneaux de nez, les vêtements de fête, et les tuniques, et les manteaux, et les bourses, et les miroirs, et les chemises, et les turbans, et les voiles de gaze. Et il arrivera qu'au lieu de parfum, il y aura pourriture, et au lieu de ceinture, une corde, et au lieu de cheveux artistement tressés, une tête chauve. Et au lieu d'une robe d'apparat, un sarrau de toile à sac, flétrissure au lieu de beauté.
C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas nous, c'est la parole de Dieu. Et par rapport à 1 Pierre 3, versets 3 à 5, voyons bien l'habillement de la femme. C'est aussi l'état intérieur. Selon l'état intérieur, quand on est soumis à la parole de Dieu, alors ça se voit aussi dans l'état extérieur. Et nous avons ainsi à honorer la parole de Dieu, honorer le Seigneur lui-même dans notre vie. Ici, ce sont les hommes et les femmes chrétiens, chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur, et ainsi à ensemble réaliser la différence entre les hommes et les femmes dans la conversion. L'homme et la femme sont devant Dieu. Il suffit de lire aussi Galates 3, verset 28. Nous sommes là devant le Seigneur. Nous sommes tous ensemble.
Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus.
Nous sommes tous un dans le Christ Jésus. Voilà. Mais dans la vie quotidienne, dans la maison de Dieu, voilà comment nous avons à nous tenir selon les enseignements de la parole de Dieu. Eh bien, c'est bien la parole qui le dit, c'est pas nous.
Je crois qu'il faut, insister sur la grande importance de cette expression de 1 Pierre 3, verset 4, l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'homme caché du cœur. Dans la première épître à Timothée, il est parlé de la piété. Et dans le verset 10 du deuxième chapitre, il est parlé de celles qui font profession de servir Dieu. Le point important qu'il faut sans doute souligner, c'est que dans la maison de Dieu en ordre, ce qui devrait nous caractériser, c'est la piété. La piété, c'est-à-dire cet homme caché du cœur, c'est-à-dire avoir cette confiance en Dieu, mais aussi craindre Dieu. Et nous faisons sans doute tous profession de servir Dieu. Et la grande question qui nous est posée, qu'en est-il de notre piété journalière? C'est quelle est notre relation personnelle journalière avec Dieu? Qu'en est-il de nos prières? Qu'en est-il de cette crainte de Dieu? Craindre Dieu. Nous faisons tous profession ici d'appartenir à la maison de Dieu. Mais qu'en est-il de cette réalité qui devrait être dans nos cœurs, cette partie cachée aux hommes, mais Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. Et qu'en est-il de notre crainte de Dieu, la crainte de lui déplaire? Et on voit dans cette première épître à Timothée, au fur et à mesure qu'on avance, l'importance de la réalité de notre vie chrétienne, qu'il n'y ait pas cette dissociation entre notre apparence, ce que nous montrons et ce que nous vivons jour après jour devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a rien de caché. Devant nos frères et sœurs, on peut beaucoup cacher de choses. Mais qu'en est-il de cet homme caché du cœur? La question de la tenue et de l'habillement des sœurs, c'est au fond la question qui est devant nous, c'est que dans la maison de Dieu, il ne faut rien d'inconvenant. Pudeur, décence, pudeur, modestie, pas d'apparence des tresses, de l'or, des perles et d'habillements somptueux. Ce sont plutôt des accessoires de mode. Donc, attention à la mode, au suivi de la mode pour nos sœurs, mais aussi pour les frères. Nous pouvons aussi, nous les frères, suivre la mode. Je rappellerai simplement une expression d'un frère de Pau qui est délogé maintenant. Quand il abordait ces sujets, il disait toujours « Frères et sœurs, la mode, eh bien, elle se démode. »
Je voudrais ajouter à cet égard-là une réflexion. Ces paroles s'adressent à chacun de nous, en ce sens que le Seigneur, l'Esprit-Saint, s'adresse aux hommes pour ce qui les concerne, aux femmes pour ce qui les concerne, et à chacun de nous personnellement, pour ce qui nous concerne. Et je crois que nous avons besoin de ne pas tourner les choses et de les prendre comme si elles me concernaient dans mon regard, dans ce que je dois regarder chez l'autre, sur le regard que je dois porter sur l'autre. Et on peut être très facilement en danger de voir plus les problèmes, entre guillemets, qu'il y aurait éventuellement chez l'autre que de regarder à ce qui nous concerne nous-mêmes. Et en particulier, premièrement, sur ce qui se voit, l'apparence. Et là, je donnerai juste deux petites anecdotes réelles, des choses que l'une que j'ai entendue directement, l'autre qu'on m'a rapportée. La première, c'était d'un frère, quelqu'un venant du monde. À une époque où le costard-cravate, c'était l'uniforme des frères à la Réunion. Quand on lui a dit, il faudrait que tu mettes un costume, ben, il était choqué. Mais attends, costume-cravate, c'est ce que je mettais pour aller au bal quand j'étais un converti. Voilà. Et puis l'autre anecdote, une sœur, pareil, venant du monde, qui la première fois qui est allée dans un rassemblement chrétien, je ne sais pas si à ce moment-là elle était déjà convertie ou pas encore, mais en tout cas elle avait conscience que ce n'était pas un endroit quelconque. Elle a mis ses meilleurs habits, un pantalon et un blouson en cuir noir. Vous voyez le genre de vêtements que c'est. L'intention du cœur y était complètement. L'apparence extérieure pouvait donner l'impression de quelqu'un de parfaitement mondain. Ce qu'on a là. Donc attention à notre regard et à la manière dont nous lisons ces versets, ceux de Pierre, et comment nous les appliquons aux autres. C'est très facile de porter des jugements qui font mal, qui ont des conséquences, parce qu'on a utilisé ces passages de la mauvaise manière. J'ai juste repris là, à l'instant, on ne va pas lire les passages, ce n'est pas utile, mais relisons l'histoire du serviteur d'Abraham allant chercher une femme pour Isaac. Qu'est-ce qu'il donne à Rebecca ? Un anneau d'or pour le nez, des bracelets. Et puis après, qu'est-ce qu'il déballe ? Des objets d'or, d'argent, des vêtements précieux. Exactement ce qu'il nous est dit là, où il nous est mis en garde. Dans un autre temps, dans un autre contexte, ça faisait partie des choses qui étaient à leur place. En ce sens-là, il y a, sur ces questions-là, il y a beaucoup d'enseignements de l'Ancien Testament qui sont difficilement transposables à ceux qui nous concernent, parce que pour l'Israélite, la bénédiction de Dieu était une bénédiction premièrement matérielle, visible par l'abondance, par la richesse, par la capacité, la possibilité d'avoir ce genre de choses précieuses. Et le passage d'Ésaïe, c'est bien un passage qui nous révèle ce que Michel a relevé tout à l'heure, l'homme caché du cœur, Dieu dénonce que l'homme caché du cœur n'était pas du tout en accord avec tout ce qui était mis en avant et avec une certaine vanterie qui avait associé à cela. Là aussi, c'est quelque chose où il nous faut être prudent. Pour terminer, je rêverai juste les trois mots qu'on cite très souvent, costume décent, pudeur, modestie. Ce sont des indicateurs, mais qu'il nous faut réfléchir, travailler. Je prendrai simplement le mot de décence. Aller en son travail en maillot de bain, ce serait indécent. Aller à la piscine en maillot de bain, il n'y a rien d'indécent. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Là, il y a quelque chose de relatif qui nous demande une intelligence, de rentrer dans la chose pour comprendre qu'est-ce que veut dire décent, qu'est-ce que veut dire pudeur, qu'est-ce qui veut dire modestie. Aujourd'hui, maintenant, dans notre temps, qui n'est pas forcément la même chose qu'il y a un siècle, et qui ne sera peut-être pas la même chose dans 30 ans, pratiquement. La manière dont il faudra le décliner. La pensée qui est derrière est toujours la même, mais la manière dont nous sommes amenés à la mettre en pratique change selon le temps et selon l'endroit.
Lisons juste Proverbe 11, verset 22. Il y a aussi la note.
Une femme belle et dépourvue de sens, c'est un anneau d'or au nez d'un pourceau. Et la note, ici qui manque de tact, de jugement.
À la suite de ce que vient de dire Jacques, l'importance, quand nous lisons la parole de Dieu, de l'appliquer à nous-mêmes d'abord. Et c'est quelque chose, et je crois qu'il faut insister, et je suis bien d'accord, la parole de Dieu, quand nous la lisons, elle s'applique d'abord à nous. Et un frère a rappelé aussi souvent, est-ce pour moi ? Est-ce pour moi ? Est-ce moi ? Est-ce moi ? Que nous soyons gardés de juger nos frères et nos sœurs selon l'apparence, et quand nous lisons la parole de Dieu, posons-nous cette question. Est-ce que ces versets que nous sommes en train de lire, est-ce pour moi ? Et est-ce que c'est pour moi ? Est-ce moi ? Il faudrait aussi lire un autre verset dans les Proverbes sur l'homme caché du cœur. Dans le chapitre 23, verset 7, « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » L'œil de Dieu ne regarde pas à notre apparence, mais la parole de Dieu nous dit dans ce verset 7, du chapitre 23 des Proverbes, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. C'est-à-dire, au fond, Dieu regarde à nos pensées. Et ces pensées, il n'y a que Dieu qui les voit, qui les saisit. Et l'homme caché du cœur, c'est ses pensées, ce que nous avons dans l'esprit, dans notre esprit. Si nous avons un esprit de jugement par rapport à nos frères et sœurs, eh bien Dieu le sait. Et si après dans les conversations ça se répercute, Dieu le sait. Et n'oublions jamais l'importance de l'homme caché du cœur. Ce que personne ne voit, ce que personne n'entend, ce que je ressens, ce que mes propres pensées, eh bien, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Et Dieu nous voit par rapport à nos pensées, pas par rapport à ce que nous pouvons dire ou montrer à nos frères et à nos sœurs.
Il ne faut pas juger nos frères et sœurs sur l'extérieur. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notre extérieur reflète quelque chose de notre intérieur. Et j'aimerais bien, à ce sujet, aussi reprendre ce que Jacques disait par rapport à l'exemple du maillot de bain. Par rapport au verset, donc ça dépend comment on va, à quel endroit. Et bien sûr, même si la mode se démode, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être habillé démodé. Il faut juste savoir que le monde influence beaucoup la mode et c'est pour ça que il est important aujourd'hui de parler d'un costume décent, et pour les hommes et pour les femmes. J'ai quand même sur le cœur, ici à Strasbourg, mais on l'observe aussi dans d'autres rassemblements, il n'y a pas de code et ce n'est pas notre rôle de faire des lois, etc. Mais je me permets quand même la question. Comme là, il s'agit plus particulièrement des sœurs. Nous savons que de nos jours, maintenant, le pantalon est devenu un habit de femme, c'est clair. Et peut-être, en quelque temps, il n'y aura peut-être même plus de jupe si on sera encore sur cette terre. Par contre, j'ose poser la question, est-ce que venir en pantalon est un costume décent. Tout en sachant, comme disait aussi Jacques, nous ne connaissons pas les raisons, etc. Mais il ne faut pas que ce soit un style de mode. Bien sûr, il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Si une sœur vient en pantalon, etc. Et puis, j'aimerais pas faire de fixation sur ça, mais il est important que nous soyons sensibles aussi à ça. Voilà.
Je répondrai pas à la question que tu poses, mais je voudrais relever deux choses. Ce qui est mis en avant dans ce verset 9 et 10, des tresses, de l'or, des perles, d'habillements somptueux, le mot somptueux a tout son, donne le ton, c'est tout un côté d'un ensemble d'éléments qui expriment un luxe, qui expriment une décoration, du beau aux yeux de l'homme, à vue humaine, en contraste avec ce qui est la fonction utilitaire, je peux dire, du vêtement. Et puis l'autre point, et en ce sens-là, c'est deux registres qu'il ne faut pas confondre. Et puis l'autre point, c'est que la parole parle nulle part de pantalon ou de robe, mais par contre, elle met en garde contre, je n'ai pas cherché le passage, je ne le retrouve plus, mais on peut le retrouver rapidement et si c'est nécessaire. Elle met en garde contre quelque chose de beaucoup plus grave, la confusion entre l'homme et la femme. Et dans notre époque, je crois qu'il faut faire attention de ne pas s'arrêter, se tromper d'une guerre qui est largement, se tromper d'un combat qui est largement dépassé. Le pantalon ou la jupe, il me semble que c'est quelque chose qui est dépassé par rapport à des choses beaucoup plus graves, qui sont les questions de genre et de sexe telles qu'elles sont abordées dans le monde autour de nous. Où là, la confusion homme-femme est une chose beaucoup plus délicate à aborder, beaucoup plus difficile, et ceux qui ont des enfants doivent bien le savoir, parce qu'il est mieux que moi, parce qu'ils y sont confrontés probablement par l'école, et nos jeunes y sont confrontés très directement. Donc ce que je veux juste dire là, c'est ne nous trompons pas dans les choses importantes aujourd'hui, en restant sur des choses qui sont au fond secondaires par rapport à ces choses importantes.
C'est juste pour dire que la deux choses. Je pense que la question pantalon et robe ou jupe, peu importe, c'est vrai, ça c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais à mon avis, ça en fait partie de tous les sujets. Et deuxième chose, voilà, je posais la question pas aux frères, je la pose, mettez sur notre sous nos consciences, quoi, simplement. Donc, j'attends pas que quelqu'un réponde.
Je sais pas si le passage que cherchait Jacques, c'est Deutéronome 22, peut-être. Verset 5. La femme ne portera pas un habit d'homme et, l'homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Moi, je voudrais lire un verset de Romains 14, verset 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Et avant, verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 12, ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu.
Salomon, dans Proverbe 2, on peut lire les versets 1. À 5, il parle à son fils, mais ça peut aussi être sa fille.
Proverbe 2, mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu caches par devers toi mes commandements, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu.
La crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on écoute sa parole et on l'applique telle que Dieu nous le dit.
J'aimerais juste encore ajouter quelque chose d'une manière générale, surtout pour les enfants. Vous avez remarqué que tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, c'est très différent que ce qu'on voit dans le monde. Et il faut que vous soyez conscients que le monde, parle de l'émancipation, de homme-femme égal, etc. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible, elle dit que chacun a sa place, chacun a sa valeur aussi, parce que le monde, il veut souvent faire aussi un raccourci quand on dit l'homme à sa place, la femme à sa place. Il parle souvent qu'on met l'homme, on lui donne plus d'importance devant Dieu. Chacun a la même importance, mais un autre, chacun son rôle, ce qui est très important. Et comme on vient de le lire, comme Robert l'a dit, il faut obéir à la parole et c'est tout. Donc, quand vous entendez quelque chose à l'école, comme aussi disait Jacques, à l'école, vous êtes, vous les enfants, vous êtes les plus au front de toutes ces influences du monde, toutes les théories et les philosophies, etc., qui vous racontent que toutes les bêtises, on n'a pas besoin de les, et c'est pas la place de les redire, mais s'il y a quelque chose qui est contraire à la parole, et c'est ça, ça le sera de plus en plus, c'est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui le dit, qui a raison. Et aussi, après le culte ce matin, je m'entretenais encore avec une sœur, et on s'est dit encore, c'est que le mal aujourd'hui, déjà quand la Bible, quand ça a été écrit dans la Bible, mais on le voit de plus en plus clair, le mal est appelé bien et le bien mal. Donc voilà, il y a des choses qui, il y a quelques années, pour notre génération, étaient encore plus, on peut dire, naturelles, mais le monde se pervertit toujours davantage, et puis il faut toujours tenir à ce que dit la ferme à ce que dit la Bible et vous méfier de ce que vous apprenez à l'école.
Et puis en complément de ce que Benjamin vient de dire, pour les enfants aussi, un peu les jeunes, je reprends l'expression d'homme caché du cœur qu'on a évoquée à plusieurs reprises. Face à tout ce à quoi vous êtes confrontés, l'important, c'est votre vie intérieure avec le Seigneur, c'est résister dans le cœur à ces influences en s'ancrant dans la parole et auprès du Seigneur, plus que de parler. Il y a des occasions où on peut être amené à devoir dire « Non, mais ce que vous dites là, ça ne tient pas debout, comme ça. » Mais d'abord, ce qui est nécessaire, c'est vraiment tenir ferme dans le cœur, près du Seigneur, pour que lui donne le discernement de ce qui est à garder, de ce qui est à rejeter. L'Église et l'école vous apprend des choses qui sont bonnes, apprendre à calculer, apprendre à lire, apprendre des tas de choses comme ça qui sont des choses utiles. Mais mêlé à tout ça, il y a tout un ensemble de choses qui sont ce que j'appelais tout à l'heure la pensée, la manière de penser du monde sans Dieu. Et c'est ça qu'il faut arriver à discerner qu'est-ce qui est quoi. Et l'important, c'est vraiment cette vie intérieure avec le Seigneur pour qu'il vous aide à reconnaître ce qui est sa pensée et ce qui n'est pas de lui. Plus important que de, si je reprends une expression que j'ai utilisée aussi par rapport à la colère et le raisonnement, plutôt que de réagir à ce que le monde essaye de vous faire croire. Il n'est pas utile et pas forcément nécessaire de réagir. Il peut y avoir des occasions où on est amené à rendre témoignage, c'est autre chose. Mais le fondement, la chose importante, c'est vraiment se tenir près du Seigneur pour que lui vous aide à voir ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui.
J'ajoute juste, dans le même esprit, un verset dans 2 Timothée, chapitre 3. Verset 14. « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Donc, nos enfants, nos petits-enfants, les adolescents ici, cette parole s'adresse à vous, mais toi, chacun de vous, demeure dans les choses que tu as apprises avec des parents chrétiens ou dans l'assemblée. Et l'expression qui est fondamentale est « dont tu as été pleinement convaincu ». Toutes ces choses que vous entendez de la parole de Dieu, il faut que dans vos cœurs, vous en soyez pleinement convaincus. Ce sont des choses qu'il faut saisir par la foi, recevoir dans le cœur et dans la conscience, en être pleinement convaincus, et c'est dans la mesure où nous en sommes pleinement convaincus que nous pourrons et que vous pourrez demeurer dans ces choses que vous avez apprises.
246, strophe 4.